Celui qui, dans sa grâce, comme notre grand souverain sacrificateur, vous le savez, dans son office céleste, a intercédé auprès du Père en notre faveur. Vous savez, dans le ciel, Jésus n'est pas inactif. Il intercède auprès du Père en notre faveur. Il est notre grand souverain sacrificateur. Et ce qui est merveilleux, c'est que, en sa qualité de grand souverain sacrificateur, il a une capacité d'intercession qui est particulière. Pourquoi ? Parce qu'en même temps qu'il est le grand souverain sacrificateur, il est en même temps le sacrifice. Le sacrifice parfait. Le sacrifice parfait qui fait que le Père, dans sa grâce, trouvant des conditions réunies à tous les degrés et à tous les niveaux, peut ce soir nous faire miséricorde et répandre sous chacune de nos vies, comme ses enfants, sa riche bénédiction. En même temps, mettre dans nos cœurs, par son Esprit Saint qui l'a fait habiter en nous, expérience, la nouvelle naissance, eh bien, non seulement des bonnes dispositions, mais aussi la connaissance nécessaire pour que ce culte que nous sommes venus rendre à Dieu soit un culte qui lui soit agréable et soit pour nous qui sommes devenus enfants de Dieu le culte raisonnable. Raisonnable pour nous et agréable pour Dieu. Quand je dis raisonnable, cela veut dire que derrière la raison, il y a l'entendement, et derrière l'entendement, il y a l'ensemble de nos capacités psychiques. Tout ce qui gouverne notre esprit, qui, en association avec le Saint-Esprit, permet que nous puissions avoir les bases données et requises pour servir l'Éternel avec joie. Est-ce que ce soir, mon frère, ma sœur, tu es venu joyeusement rendre le culte à Dieu? Ou peut-être quand tu es là, ton esprit est préoccupé par ta situation, tes problèmes, tes combats, tes souffrances, tes attentes, tes besoins. Certes, je peux le comprendre. Et rassure-toi que personne ne dise que le pasteur gentil me pointe du doigt et porte sur ma vie un jugement. Loin de là. Loin de là. Il ne m'appartient pas de fonctionner ainsi, puisque un pasteur, il a un esprit de berger. N'est-ce pas? Et en tant que tel, mon travail pastoral consiste à vous amener toujours plus près de Jésus. Pour recevoir ces cinq conseils, ce qui est convenable devant sa face, ce qu'il veut par son esprit nous communiquer, afin que nous puissions continuer à avancer sur le chemin de la persévérance. Car le chemin de la persévérance, c'est aussi les sentiers de la justice. Le chemin de la persévérance, les sentiers de la justice, c'est le moyen divin pour nous d'aller de progrès en progrès, de continuer à œuvrer jusqu'à ce que nous arrivions, comme Jésus a dit, passons à l'autre bord. Certes, il y a des obstacles. Quelquefois, ces obstacles se dressent devant nous. Mais justement, Dieu permet que certains obstacles se dressent devant nous pour nous aider à les surmonter. C'est un peu ce qui convient dans sa qualité ou cette œuvre qu'il a commencée, comme nous avons vu ça dernièrement, comment Dieu travaille à nous affermir. Amen. Certes, nous avons été affranchis. Jésus a dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Mais après que nous ayons été affranchis de l'esclavage, du péché et de la servitude, Dieu nous a fait naître de nouveau et il continue maintenant, puisqu'il nous a placés dans son école, à nous affermir progressivement afin que de plus en plus, nous soyons à l'image du merveilleux modèle que nous avons à la personne de notre Seigneur Jésus-Christ qui est au milieu de nous. Qui ce soir, comme étant le chef suprême de l'Église dont il est la tête, et dont nous sommes les membres, n'a pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme. Il connaît exactement tout ce qui se passe dans chacune de nos vies. Mais une parole est sortie de sa bouche dans une circonstance particulière, c'est celle-ci, le disciple n'est pas plus grand que le maître, ni le serviteur que son seigneur. Mais il suffit au disciple d'être comme le maître. Et savez-vous, frères et sœurs en Christ, que Jésus-Christ, dans son ministère, Jésus-Christ ne faisait pas toujours l'unanimité. Je vous dis quelque chose d'étrange peut-être. Non, c'est pas étrange. Je répète que dans son ministère, Jésus-Christ, celui qui se décrivait comme fils de l'homme, mais aussi fils de Dieu, et Dieu lui-même, fait homme, ne faisait pas toujours l'unanimité. Mais vous pouvez dire amen, c'est la parole de Dieu qui le dit, hein. Vous savez ce qu'on a dit de Jésus? Il a un démon. Il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? Alors, dans ce cadre-là, frères et sœurs en Christ, si le maître l'a dit, si on a dit de Jésus qu'il avait un démon, qu'il était fou, on le dira aussi de nous. Laissez-moi vous dire que le maître a dit que nous aurons pour ennemis même les gens de notre maison. C'est pas quelque chose d'étrange qui nous souvient d'être confronté à ces choses. C'est logique. Le maître l'a dit. Mais ce qui est formidable, c'est que lorsque nous serions confrontés à cela, il a déjà préparé ce qu'il faut pour nous en sortir. Gloire à Dieu. Alors, voici la déclaration que nous allons considérer et qui va servir d'entrée en matière pour notre méditation de ce soir. C'est un peu le sujet que nous avons partagé dimanche dernier avec l'Église, mais comme le Saint-Esprit me l'a recommandé, pour que les bien-aimés qui viennent rendre le culte à Dieu le samedi soient au bénéfice de cette même parole, donc nous allons considérer le sujet. Et ce qui est merveilleux, c'est que le sujet que nous avons partagé dimanche au culte de 10h, repris ce soir avec la même direction du Saint-Esprit, mais on peut avoir la même direction du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit qui conduit peut amener ce soir, dans le sujet que nous allons partager, des pensées qui n'ont pas été données dimanche matin, parce que c'est pas le même auditoire. Et même si c'est la même direction du Saint-Esprit, le Seigneur peut donner, à ce que celui qui ce soir, comme son enfant, a besoin d'exhortation, a besoin d'édification, a besoin d'enseignement, a besoin d'instruction, reçoit de la part de Jésus-Christ la nourriture au temps convenable, qui convient. Amen. Alors voyez avec moi comment la parole de Dieu nous est présentée ce soir. Livre de Ruth, le chapitre 3, verset 1er. Que Dieu soit béni. Tout le monde est à la page. Nous faisons lecture. Naomi, sa belle-mère, lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse et déjà nous pouvons dire Amen. Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Pour ceux qui connaissent le livre de Ruth, il y a dans ce texte, le livre de Ruth, de multiples leçons spirituelles par rapport à une histoire qui nous rappelle que il y avait une famine dans le pays d'Israël. Cela se passe du temps des juges. Et un homme de Bethléem, de Juda, est parti avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Pour l'époque, Moab est un pays ennemi d'Israël. Alors comment pouvez-vous expliquer que à Bethléem, qui signifie littéralement maison du pain, Bethléem, maison du pain, Judas qui signifie littéralement louange de l'Éternel, un homme nommé Élimélec, dont le sens étymologique du nom signifie mon Dieu est roi, avec sa femme Naomi, ce qui signifie littéralement dans le sens étymologique ma douceur, ma beauté, ayant deux enfants, l'un est surnommé Maclon et l'autre surnommé Kijlon. Sens étymologique qui va nous donner à comprendre quelque chose d'important. Maclon, cela signifie littéralement le malade. Et Kijlon, cela signifie littéralement le languissant. Étrange, n'est-ce pas, que celui dont le nom signifie mon Dieu est roi, allié par mariage avec Naomi, ma douceur, ma beauté, ils engendrent le malade et le languissant. Ça pourrait sembler étrange, mais si nous grattons un petit peu, c'est pas si étrange que ça. On peut trouver l'explication dans la dernière phrase du livre précédent. Dans ce temps-là, dit l'Écriture, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Comment appellerions-nous cela? De l'anarchie, autant sur le plan politique que sur le plan religieux. Dieu avait pourtant établi des juges pour que les choses soient réglées, mais chacun faisait ce qui lui semblait bon. Donc Dieu a voulu marquer la situation qu'il voyait dans le peuple, dans la nation, au travers les deux noms donnés à ses enfants. Le peuple était malade et le peuple était languissant. Cela vous va toujours? Bien, c'est la mise en place. Hein? Donc, dans ce pays de Moab où ils étaient partis faire un séjour, le séjour s'est retrouvé comme un établissement. Ils se sont établis. Première leçon, frères et sœurs en Christ. Celui qui précipite ses pas, il tombe dans le péché. Le regard de la chair est trompeur. Ils ont regardé la famine dans le pays et on a pris une décision hâtive. Laissez-moi vous dire que devant Dieu, il n'y a pas de solution dans la fuite. Il n'y a pas de solution dans la précipitation. L'important, c'est d'attendre le temps de Dieu. De le laisser agir. Comme si Dieu n'était pas assez puissant pour faire vivre cette famille au sein de la famine. Élimélec, dans le pays de Moab, mourut. Ainsi que les deux enfants, Maclon et Kijlon. Ils sont morts tous les trois. Alors Naomi est restée seule avec ses deux belles filles. L'une s'appelait Orpa. Et après la mort, elle a pris la décision de retourner vers son peuple et vers ses dieux. Mais l'autre belle-fille, appelée Ruth, Lorsque la belle-mère Naomi la pressait de retourner comme sa belle-sœur vers son peuple et vers ses dieux, elle a dit non. Attachée à sa belle-mère, elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple, là où tu iras, j'irai et j'y mourrai. Que autre chose que la mort vienne à me séparer de toi. C'est là même des paroles qui montrent son attachement. Alléluia. Alors vous comprenez pourquoi. Mais derrière ça, frères et sœurs en Christ, il y a une main divine qui dirige la manœuvre. C'est la main du Tout-Puissant. Alors, si nous connaissons la suite du récit, la belle-mère, au chapitre 3, comme nous venons de le dire, après avoir résumé un petit peu, va déclarer, Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, et regardez comment elle s'exprime, je voudrais assurer, je voudrais assurer ton repos. Donc, obligatoirement, frères et sœurs en Christ, quand nous lisons cela, et surtout ce qu'elle rajoute après, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois, assurer ton repos pour que tu sois heureuse. Alors, je me suis laissé aller à cette réflexion à cause de la parole que j'ai lue, et j'ai compris que derrière ce mot assurer ton repos pour que tu sois heureuse, il y a quelque chose qui ressemble fortement à une évaluation, mais dans la durée, qui me mène aussi obligatoirement à faire la différence entre le bonheur et le plaisir. Dans le plaisir, il y a ce qui est ponctuel, ce qui se vit dans l'instantané, ce qui se vit dans l'instant. Mais le bonheur, c'est sur la durée. Donc Naomi voulait assurer. Frères et sœurs en Christ, depuis que vous avez rencontré le Christ Jésus, ma part, je vous assure, frères, je suis devant Dieu ce soir, je suis pas là pour jouer la comédie. Je vous assure que depuis que j'ai rencontré Jésus, ça fait 38 ans que je suis heureux avec Jésus. Auparavant, j'avais des moments de bonheur, dus à certains plaisirs. Plaisir de la vie mondaine, plaisir dans la musique, mais fort souvent, ça partait en fumée, parce qu'il y avait des soucis qui occupaient l'esprit, des problèmes à gérer, des difficultés rencontrées. Mais Naomi déclare à sa belle-fille, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos pour que tu sois heureuse. » Et puis, la suite du récit nous montre, frères et sœurs en Christ, comment Dieu, dans sa grâce, va diriger les circonstances pour que le bonheur de Ruth se retrouve dans la rencontre avec Boaz, qui avait droit de rachat, image de Jésus-Christ qui nous a rachetés et qui nous a placés sous son aile. Alléluia! Par l'alliance dont nous sommes les objets de sa part, et il veille sur chacune de nos vies, jour après jour. Et ça, le bonheur n'est pas simplement durable, il n'est pas simplement le temps de notre pèlerinage terrestre, mais nous sommes en route pour quelque chose d'éternel. Hallelujah. Donc un repos assuré, un bonheur durable qui nous conduit jusque dans la vie éternelle. Que Dieu soit béni et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Salomon, fils de David, dans le premier livre des rois, au chapitre 5, dans 1 roi 5, va mettre en évidence quelque chose dans le même cadre. Alors, 1 roi, le chapitre 5, verset 1er. Hiram, roi de Tyr, envoya ses serviteurs vers Salomon, car il apprit qu'on l'avait oint pour roi à la place de son père. Et notez bien, il avait toujours aimé David. Salomon fit dire à Hiram, « Tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel, son Dieu, à cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé, jusqu'à ce que l'Éternel les ait mis sous la plante, dites avec moi, de ses pieds. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné... L'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts. Et il explique ainsi, plus d'adversaires, plus de calamités. Il a été loin comme moi d'Israël. Et lorsqu'il vient dans la royauté, Dieu lui fait rentrer dans un service où le repos est assuré, plus d'adversaires, plus de calamités. Mais il a pris soin de dire, David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison à l'Éternel. Mais Dieu lui a dit, tu as fait trop de guerre, tu as versé beaucoup de sang. Et Dieu lui avait pris soin de lui dire, c'est pas toi qui bâtiras cette maison, mais ce sera ton fils sorti de tes entrailles. Qu'est-ce que nous devons comprendre? On avait dit que quand Dieu nous donne du repos, c'est pas pour que nous puissions nous réfugier dans un fauteuil Pullman et que nous tournions le doigt pour montrer qu'on est en repos. Non, c'est pas ça. Dieu nous donne du repos, mais Salomon voulait dire, maintenant je peux travailler pour construire la maison de l'Éternel. Est-ce que Dieu m'a donné du repos? Oui, il m'a donné du repos. Et c'est un repos à l'intérieur. Pour que je puisse l'aimer. Pour que je puisse le servir. Pour que je puisse accomplir son œuvre. Parce que n'oublions jamais que lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu, la Bible nous rappelle que Dieu a préparé d'avance des bonnes œuvres pour que nous puissions les pratiquer. Il donne du repos sur nos ennemis. Mais pour que nous puissions œuvrer pour sa gloire. Est-ce que c'est ton cas ce soir, mon frère, ma sœur? As-tu compris ça dans ta vie chrétienne? Mais si tu ne l'as pas compris, Dieu te le fait comprendre ce soir. Parce que certains enfants de Dieu pensent qu'une fois qu'ils sont rentrés dans le salut, c'est comme s'ils ont reçu un certificat pour le ciel. Mais oui, c'est le certificat, tu l'as. Tu es entré dans le salut, Dieu t'a fait la grâce de recevoir de sa part le pardon de tes péchés, il t'a donné l'expérience de la nouvelle naissance, il a mis en toi le Saint-Esprit, tu es Jean de sa maison, tu es membre du corps de Christ, ouais. Ah ouais, oui. Mais les conditions ici sont réunies pour que tu puisses œuvrer comme disciple de Jésus avec deux attributs. Premièrement, tu es du sel pour la terre. Deuxièmement, tu es la lumière pour le monde. Et nous pouvons même mettre troisièmement, tu es un disciple de Jésus-Christ. Oh, le disciple, c'est qui? C'est celui qui... Le disciple, c'est pas Jésus, Jésus, c'est le maître. Le disciple, c'est nous. C'est celui qui volontairement accepte l'enseignement du maître dans le but de lui être agréable et de le servir. Toute calamité, du repos de tous côtés. Alors les conditions sont réunies pour que moi, Salomon, je bâtisse la maison au nom de l'Éternel, ce que mon père n'a pas pu faire. Et Dieu va permettre que lui soit envoyé du bois de cèdre, toutes sortes de matériaux, et il va se mettre à l'ouvrage pour bâtir la maison de l'Éternel. Et quand la maison a été bâtie, eh bien, il va dédicacer la maison de l'Éternel. Et quand il dédicace la maison de l'Éternel, puisqu'il est dans le plan de Dieu, la Bible nous dit que les sacrificateurs ne purent rester dans la maison de l'Éternel tellement la gloire de l'Éternel avait rempli la maison de Dieu. La maison était remplie de fumée. Présence du Saint-Esprit. C'est ça, frère et soeur, en Christ. Alors, si moi, Dieu me donne du repos, que je comprends que je dois le servir de tout mon cœur, du mieux que je peux, en accord avec sa pensée, sa volonté et sa parole, alors les conditions sont réunies pour que le Saint-Esprit me remplisse. Ça va, frère et sœur en Christ? On va plus loin?
Oui, pasteur gentil. On va plus loin. Parce que Jésus veut que nous allions plus loin dans sa présence. Alléluia. Que Dieu soit béni. Dieu te donne le repos. Mais pas pour que tu puisses te complaire en toi-même, mais conditions réunies pour que tu puisses œuvrer pour sa gloire. Utile en rendant témoignage à la personne de Jésus. Du sel pour la terre. Merci la lumière pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Dieu peut-il compter sur toi ce soir? C'est un cantique que nous chantons souvent et une question est posée. Dieu peut-il compter sur toi? Dieu peut-il compter sur toi? Le pourra-t-il jusqu'au bout? Dieu peut-il compter sur toi? À l'heure du sacrifice, il n'a pas son morija. Lorsque notre front se plisse, quand nous se livre un combat, Dieu peut-il compter sur toi? Dieu peut-il compter sur toi? Le pourra-t-il jusqu'au bout? Dieu peut-il compter sur toi? La question est posée. Mais la réponse, tu l'as dans ta conscience. Je ne peux répondre à ta place. C'est Dieu seul qui lit dans ton cœur. Dieu peut-il compter sur toi? Dans le chant, il dit, oui, tu peux compter sur moi, mais c'est pas un chant que nous chantons ce soir, c'est chacun, dans ce cadre-là, qui, étant interrogé par le Saint-Esprit, aura la réponse, selon ce que Dieu permettra. Tiens! Deux Chroniques 20, verset 34. C'est encore un autre récit, que je vais résumer pendant que vous cherchez la page. C'est un roi qui s'appelle Josaphat. Et le roi Josaphat est confronté à une situation, une coalition de trois rois, fils de Moab, de Maron et les Maronites de Moab, Moab, Ammon et les Maronites, qui montent contre lui pour lui faire la guerre. Alors lorsque cette coalition de trois rois, dans 2 Chroniques 20, verset 1er, monte pour pouvoir attaquer le roi Josaphat, le roi Josaphat, la Bible nous dit que avec le peuple, ils ont tremblé devant l'ennemi. La frayeur les a saisis. Mais dans cette frayeur, il s'est disposé à chercher l'Éternel. Et avec tout le peuple qui l'a convoqué, ils se sont tenus devant Dieu, dans la prière, dans la souffrance. Et dans cette prière, ils ont adressé à Dieu cette parole devant cette grande multitude qui monte contre nous pour nous attaquer, Éternel. Nous sommes sans force et nous ne savons que faire, mais il nous reste nos yeux qui sont sur toi. Et Dieu aime ça, frères et sœurs en Christ. Nous sommes confrontés à des situations difficiles à gérer, où l'ennemi fait rage. Il y a une coalition qui s'unit avec une grande férocité, avec le dessein de nous détruire. Et quand nous crions à Dieu, nous lui faisons part de notre situation. Nous sommes sans force et nous ne savons que faire. Mais il nous reste une chose, nos yeux sont sur toi. Et vous savez, quand il dit cela, cela veut dire que derrière cette expression « nos yeux sont sur toi », les mis en évidence, notre confiance en toi.
Nous sommes sous ta dépendance. Nous sommes entre tes mains. Nous sommes ton peuple. Alors maintenant, Seigneur, à toi d'agir. Alors vous savez ce que Dieu a fait? Après avoir entendu cela, la Bible nous dit que dans le peuple, le Saint-Esprit va saisir du milieu du peuple un Lévite nommé Jacques Aziel. Et Jacques Aziel, inspiré par le Saint-Esprit, va s'adresser autant au roi Josaphat qu'au peuple de la part de l'Éternel, leur disant, dans cette affaire, ce ne sera pas vous qui combattrez. Dieu dit, ce sera moi. Et après avoir dit cela, Dieu va donner des détails concernant la suite et montrer comment les choses vont se passer. Demain, à cette même heure, vous descendrez contre eux. Et il répète, ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Voici ce que vous allez faire. Descendez. Et vous verrez la victoire que Dieu va vous accorder. C'est bien. Mais entre le moment où Dieu dit la parole et l'accomplissement de la parole, il y avait toute une nuit. Et pendant la nuit, je vois dans le peuple des esprits qui calculent, la spéculation qui s'installe, comment ça va se passer. On se pose beaucoup de questions alors que Dieu a déjà dit ce qu'il va faire. On n'a qu'à croire ce que Dieu dit et Dieu fera ce qu'il a dit. Alors le roi Josaphat, le lendemain matin, se lève de bon matin, puis c'est lui qui prend les choses en main et il commence à exhorter le peuple. Confiez-vous en l'Éternel et vous réussirez. Confiez-vous en ses prophètes et vous aurez la victoire. N'oublions pas que le roi, c'est le personnage le plus important du royaume. Et si lui est fortifié, le peuple a les yeux sur le roi. Et s'il est décidé, alors c'est comme s'il se retrouve comme un entraîneur pour entraîner l'équipe divine dans le combat. Alléluia! Alors, d'accord avec le peuple, il a nommé des chantres qui, revêtus de leurs ornements sacrés, ont commencé, étant placés devant l'armée, à entonner des cantiques, à glorifier Dieu. Quand il est bon, quand sa miséricorde durera toujours, vous me direz, mais pasteur gentil, drôle de manière de partir à la guerre. Lorsque je pars à la guerre, pasteur, ou quand je suis confronté à un combat, j'ai pas envie d'aller au combat, eh bien, j'aiguise ma lance, mon épée et mon bouclier, je m'assure que mes armes sont fonctionnelles. Mais là, ils chantent des cantiques. Pourquoi? C'est parce que quand Dieu a dit ce qu'il va faire, lorsqu'ils arrivèrent sur les hauteurs, dont on voyait la vallée, ils ont vu une multitude, mais une multitude de cadavres. Parce que la main de l'Éternel avait agi, et ce que Dieu avait dit, il l'a accompli. Et c'est dans ce cadre-là que nous lisons Deux Chroniques 20, verset 34. Verset 30, pardon. Deux Chroniques 20, au verset 30. Et le royaume de Josaphat fut tranquille. Est-ce que vous dites amen? Amen. Mais nous rajoutons la suite. Et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Pourquoi? Ils ont cru en la parole. Dieu a accompli sa parole. Et la coalition de trois rois qui montait comme une multitude, puisque Dieu a agi, ils ont été anéantis. Repos de tous côtés dans le royaume. Frères et sœurs en Christ, on peut être confronté au début à une situation qui semble insurmontable. Peut-être que ce soir tu es confronté à une situation qui te conduit à te poser beaucoup de questions. Mais malgré cela, Dieu veut te donner du repos. Dieu te donne du repos. Et ce repos, il n'est pas autant extérieur, c'est un repos intérieur. Et ce que ce repos fait, une fois que le Saint-Esprit te le communique, il te maintient dans la paix. J'ai trouvé la paix. Alléluia. Mais bien sûr, mes bien-aimés, quand Dieu nous donne du repos, le repos de Dieu s'accompagne toujours de la paix. Oh, je sais que quelquefois dans la vie chrétienne, il y a des situations où nous sommes confrontés tellement à l'hostilité du monde, les assauts du malin, et même des gens qui se dressent contre nous, eh bien, quelquefois, c'est pas la paix, c'est le contraire de la paix qui est le trouble. Et vous savez, le trouble a pour particularité, c'est de nous conduire à de l'incertitude. Et avec le trouble qui conduit à l'incertitude, une fois qu'on a perdu sa paix, on se retrouve dans un champ de spéculation qui, malheureusement, ne nous est pas du tout profitable. Mais heureusement, Jésus est là, le bon berger. Et vous voyez, Jésus, dans chaque fois qu'il était sur la terre, dans son ministère, lorsqu'il était confronté à des situations, soit qu'on lui rapportait ou qu'il devait affronter, il avait toujours cette parole, « Ne crains pas. » C'est ce qu'on appelle une parole dite à propos. Ne crains pas, mais quoi seulement. Et un enfant du Père, pour demeurer dans le repos, a besoin d'entendre de la bouche du Maître, ne crains pas, mais crois seulement. La situation que tu vis, si tu le regardes sur un plan humain, obligatoirement, l'ennemi va l'exploiter pour faire rentrer dans ton cœur la crainte. Et la crainte a cette particularité, c'est de te conduire dans l'incertitude. Mais en lecture initiale, nous avons lu, ma fille, je voudrais... Ah. Lorsque nous lisons le mot assuré, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui doit produire de l'assurance. Et si je dois avoir de l'assurance, c'est pas du côté des hommes que je regarderai. C'est pas de mon côté que je regarderai. Mais mon assurance à moi, elle est en Dieu, en Jésus-Christ, dans l'action du Saint-Esprit et dans sa parole. Et l'assurance me donne des certitudes. Sur l'assurance, c'est ce qui découle du repos, accompagné de la paix. Ça va toujours? Josaphat l'a expérimenté. Au départ, trouble général. Ennemi. Hostilité. Et devant cela, on est rapidement devant autant nos incapacités que nos impossibilités. Mais quand Dieu prend les choses en main, il a parlé, Jacques Aziel. Écoutez-moi. Peuple d'Israël, et tout Juda, et toi, roi Josaphat. Dans cette affaire, ce n'est pas vous qui combattrez, c'est Dieu. Mais demain, vous allez descendre contre eux. Et rappel, vous verrez la main de Dieu agir. Et quand Dieu parle ici, ça veut dire qu'il fait une promesse. Et pour nous, ce soir, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. Elles sont destinées à nous donner du repos. Destinées à produire en nous la paix. Destinées à nous donner de l'assurance. À balayer toute incertitude. Pour que nous puissions avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de notre... Tiens, Job le chapitre 3, au verset 26, va nous montrer une déclaration de celui dont le témoignage a été rendu par Dieu devant Satan. As-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne qui soit comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu, et s'éloignant du mal.
Mais une fois que Job a commencé à essuyer les assauts du malin, il va déclarer ceci dans Job 3 au verset 26. Job 3, verset 26. Il déclare, je n'ai ni tranquillité, ni pain, ni repos. Et il conclut, et le trouble s'est emparé de moi. Donc c'était pas rien. Ce qu'il vivait, ce à quoi il était confronté, permettait qu'il puisse avoir ce témoignage de la réalité dans laquelle il avait été introduit. Pourtant, Dieu avait dit de lui, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et s'éloignant du mal. Mais il vit une situation où il n'a ni paix, ni tranquillité, ni repos. Et le trouble, contraire du repos, de la tranquillité, de la paix, s'est emparé de lui. Vous savez, quand quelqu'un est troublé, ça se voit rapidement, hein. Il commence à bégayer, à bafouiller, et il est agité, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se greffent l'une à l'autre, hein. Mais plus tard, comme si Dieu voulait donner à ce que nous venons de lire une réponse, Élie va déclarer ceci dimanche, j'avais attribué cela à la situation de Job plus tard, mais c'est pas la situation de Job, c'est Élie qui l'a dit. Mais je crois que c'est une réponse. Ça ressemble fortement à une réponse donnée à la situation dans laquelle Job se retrouvait au départ, après que Satan ait commencé à l'accabler. Job 34, verset 29. Job 34, 29. Voici la déclaration que donne Élie, et comme je vous expliquais, ça ressemble fortement à une réponse qui serait donnée à ce que Job a déclaré au moment où il était accablé. Il est dit ceci. S'il donne du repos, donc Dieu, si Dieu donne du repos, s'il donne du repos, qui répondra le trouble? S'il donne du repos, qui répondra le trouble? Alors est-ce que Satan peut répondre le trouble là où Dieu donne le repos? Alors ce soir, Dieu veut te donner du repos. Mais avant qu'il te donne le repos, il faut bien qu'il traite ce qui te trouble. Parce que Dieu ne va jamais rajouter du repos sur du trouble. Il dégage le trouble et il donne le repos. Vous savez, quelqu'un dans le psaume 116, qui s'appelait David, il a eu avec son âme un entretien. Avec le forgeron, on a chanté tout à l'heure, « Mon âme est attachée à toi ». Vous l'avez chanté, n'est-ce pas? Mais David, lui, dans le psaume 116, il a avec son âme un entretien dans lequel il dit à son âme, « Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. » Alors je me suis laissé aller à penser dans ma petite tête, mais ma petite tête, dans mon petite tête qui a un esprit, et mon esprit est éclairé par le Saint-Esprit, pour me faire comprendre. S'il dit, mon âme, retourne à ton repos, il peut pas dire à son âme de retourner à son repos si, au préalable, son âme n'est pas sortie du repos. Vous me comprenez toujours? C'est logique. C'est une logique enfantine. Mais quelquefois, il y a des situations où notre âme sort du repos. Et comme je viens de vous faire lire, le contraire du repos, c'est le trouble. Donc, il s'adresse à son âme pour lui dire de retourner à son repos. Mais mon âme ne peut retrouver le repos que si je reviens au pied de mon maître. Je lui parle, je m'adresse à lui. Quelquefois, pour retrouver le repos,
Eh bien, mon âme a besoin que je sois conduit au pied de Jésus sur le terrain de la repentance. Ah oui, pour que je puisse lui avouer mes transgressions, une faute commise, afin de recevoir son pardon. Parce que le pardon, frères et sœurs en Christ, le premier repos que Dieu nous a donné, que nous avons cru pour le salut, c'est le repos du pardon. Une fois que nos péchés ont été pardonnés, la paix s'est installée à l'intérieur. Les calamités qui étaient les nôtres avant que nous puissions expérimenter le pardon de nos péchés, le trouble, conscience accusant et tout ce qui s'ensuit. Mais une fois que le péché est pardonné, la paix s'est installée en nous. La paix qui découle du pardon de nos péchés, et nous pourrions même rajouter tous les actes rédempteurs qui découlent de l'œuvre de la croix, commençant par la rédemption, qui est le rachat par le paiement d'un prix, et comme je disais dimanche dernier, dans l'aspect de la rédemption, Dieu voudrait montrer qu'il a racheté ce qui avait à ses yeux de la valeur. Oui, notre âme avait du prix, un prix tellement considérable qu'il a fallu qu'une rançon soit payée. Alléluia. Et avec la rédemption, je ne peux pas dissocier de la rédemption l'expiation, je ne peux dissocier de l'expiation la propitiation, je ne peux dissocier de l'expiation et de la propitiation la justification, je ne peux dissocier de l'ensemble l'adoption qui a succédé à la réconciliation. Ah, le repos. Mais pasteur, vous avez dit que quand Dieu donne du repos, c'est pour travailler, vous voulez vous asseoir. Ah, c'était une image pour vous montrer, frères et sœurs en Christ, que quand Dieu donne du repos, on est en repos. Alléluia. C'est beau. C'est bon d'être en repos. Alléluia. À l'intérieur. C'est un repos intérieur. Mais qui me donne de la joie pour travailler, pour œuvrer pour mon maître, pour montrer ma qualité de disciple de Jésus-Christ. Parce que si ces choses sont en nous, une fois que Dieu donne le repos, ça produit en moi du zèle. Cela ne me laisse ni oisif, ni stérile pour la connaissance de Jésus-Christ, mais aussi pour le désir de le faire connaître. Ah. Si ce soir tu n'as pas le repos, tu n'as pas la paix, le Seigneur est capable de te le donner. Mais si tu l'as, bénis Dieu. Mets-le à profit pour le servir, pour le célébrer, pour le glorifier, pour l'exalter, pour l'honorer, pour le magnifier, pour célébrer par tes louanges sa majesté. Gloire à Dieu. Hein? Je vous donne une dernière parole. Ah, j'en ai beaucoup, mais dans le cadre du sujet de ce soir, vous savez comment Jésus a parlé dans l'évangile de Jean, le chapitre 16, verset 33. Il a dit à ses disciples, après leur avoir montré la venue du Consolateur, et ce à quoi lui a été confronté et à quoi eux seront confrontés, il leur a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais non pas débrouillez-vous, chacun pour soi et Dieu pour tous, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il a vaincu le monde pourquoi? Pour que ce soir tu aies la paix. Dans un monde troublé et agité, Dieu donne la paix à ses enfants. Dans un monde d'incertitude, Dieu nous assure de son repos. Et puis, voici la dernière parole. Ah, vous la connaissez comme moi. Vous la connaissez comme moi. Elle est sortie de la bouche de Jésus. Elle se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11 et au verset 28. Venez à moi. Pour tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos.
Mais après, le Seigneur va rajouter quelque chose qui est important et qui nécessite que nous le comprenions d'emblée pour le vivre après. C'est quoi, pasteur gentil? Prenez sur vous mon joug. Prenez sur vous mon joug. Et vous remarquerez que Jésus n'a pas dit « Je mettrai sur vous mon joug », mais il a dit « Prenez ». Acceptation personnelle. Mais oui, prenez sur vous mon joug. Un peu la même chose que l'apôtre Paul dit aux Éphésiens lorsque nous sommes confrontés au combat spirituel. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Prenez. Je l'avais dit qu'il le met à ma disposition. Le joug, c'était une pièce de bois qui était mise sur le cou du bœuf et qui servait à l'atteler, et le bœuf savait que dès lors qu'il était attelé et que le joug lui était mis sous son cou, il fallait qu'il avance. Mais fort souvent, il avait besoin avec le joug des directives données par le cultivateur pour savoir comment avancer et quoi faire. Donc on ne peut dissocier le joug de l'instruction. Donc si j'ai pris le joug de Jésus, j'acceptais qu'il soit mis sur le cou de mon âme, je l'avais dit que cela me confère trois choses importantes en vue du repos et d'une vie dans la paix. L'acceptation du joug, ça veut dire que j'accepte de me soumettre à lui. Soumission. L'acceptation du joug, ça veut dire que je me place sous sa dépendance. Obligatoirement, l'instruction qui va accompagner l'acceptation du joug et qui va produire le repos, eh bien, me confère aussi, avec la dépendance et la soumission, l'obéissance. Mais oui, l'instruction, recevez mes instructions, ça veut dire le repos. Vous avez bien vu, il a dit recevez mes instructions et vous trouverez le repos. Vous avez dit ça va découler, ça va accompagner le fait que vous ayez accepté le joug qui va vous conférer dépendance, soumission et obéissance. Cadre dans lequel, vous comme moi, nous avons quelquefois du mal. C'est pourquoi à chaque fois le Seigneur revient toujours à la charge et il frappe sous le même clou. Mais oui, parce qu'il y a quelque chose en nous qui est la vieille nature, qui constamment s'oppose à ce que Dieu dit. Et fort souvent, frères et sœurs en Christ, fort souvent, le trouble et tout ce qui s'ensuit n'est pas autre chose que le résultat d'acceptation par ma vieille nature de ce que Dieu rejette. Mais oui. Mais quand je reviens à ce que Dieu dit, à nouveau la paix s'installe. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ce soir, Jésus veut te donner du repos. Prions le Seigneur.